Marco Rocco, que vous voyez là, était un auteur qui a toujours été très engagé pour ce qu'on peut appeler l'instruction populaire. Elle a toujours été très sensible à l'éducation des femmes. Elle a essayé de créer des écoles. Elle a cédé ses droits gratuitement pour les éducations gratuites, pour les ouvriers et pour les classes populaires. Et je pense que ce lieu symbolique lui aurait sans doute beaucoup plu. Le 15 décembre 1875, le quotidien libéral Le Temps a publié sur la première page, à l'endroit réservé au feuilleton, le début de Maroussia. À l'époque, l'éditeur du Temps, qui était aussi un ami d'Hetzel, a accepté, pour faire promotion de ses œuvres, de publier dans le journal, donc en feuilleton, les romans que Stahl lui proposait. Et donc Maroussia est paru le 15 décembre 1875 en première page. 3 ans plus tard, elle est publiée dans le magasin d'éducation et de récréation. La même année 1878, Maroussia est parue en livres séparés et c'était cette édition-là, sous cette forme-là, les beaux cartonnages rouges, bien connus de la plupart des lecteurs pour les publications de Jules Verne. Si la première parution française était signée Pierre-Jules Stahl, donc pseudonyme de Pierre-Jules Hetzel, d'après le roman russe de Marco Rocco, celui du magasin disait qu'il s'agissait d'un roman d'après une légende russe de Marco Rocco, alors que le livre était sorti sous l'indication d'après la légende de Marco Rocco. Lorsqu'il arrive pour la première fois en France en 1860, Maria Markovitch, née Vilinska, est âgée de 27 ans et c'est un auteur connu et apprécié en premier lieu pour ses contes populaires, parus 2 ans plus tôt et rédigés en langue ukrainienne sous le nom de plume de Marco Rocco. Ce sont des fresques réalistes de la vie des paysans souffrant du servage, rédigées dans une langue très vivante, et ils créent un véritable événement, salué tant par les milieux ukrainiens, dont Taras Shevchenko, le grand poète écrivain ukrainien, que par l'intelligentsia russe, dont on ne citera que le nom de Turgenev, Herzen, Tchernyshevsky, Dobrolubov et tant d'autres. Marco Rocco devient l'ornement des salons pétersbourgeois et même l'entichement, comme on a dit donc en français dans une des lettres, de la colonie ukrainienne de Saint-Pétersbourg, où Taras Shevchenko l'a comparé à George Sand et en fait sa fille alors qu'elle l'appelait père. Ses œuvres en langue russe, car elle a écrit aussi en langue russe, sont aussi hautement appréciées, toutefois sans lui conférer la même place qu'elle s'est acquise désormais avec son œuvre ukrainienne. L'époque oblige, Maria Vilinska travaille sous un pseudonyme d'homme, Marco Rocco, et elle préfigure déjà l'apparition de la littérature féministe ukrainienne à la fin du XIXe siècle. L'œuvre originale, Maroussia, de Marco Rocco, est publiée à Saint-Pétersbourg en 1871 dans la série Traduction des meilleurs auteurs étrangers, collection qu'elle dirigeait et qu'elle avait conçue pour soutenir l'émancipation des femmes. Et l'année suivante, Maroussia est parue en livre chez l'éditeur Zvonarev, qui était un des éditeurs des romans Hetzel en Russie, avec lequel Marco Rocco collaborait en tant que représentante de la maison Hetzel et en tant que traductrice. C'est Marco Rocco qui a traduit pratiquement tout Jules Verne en russe, c'est-à-dire que c'est dans ses traductions que Jules Verne est arrivé en Russie. La question de la langue de rédaction du livre par Marco Rocco, donc est-elle écrite en russe ou en ukrainien, a été longuement débattue. Un consensus semble avoir été trouvé, le livre aurait été écrit en russe puisqu'aucune trace d'un manuscrit ukrainien n'a été trouvé, même s'il existe des références, des allusions indirectes. Mais cette supposition est plausible aussi parce que, après la publication de son livre ukrainien, donc deuxième volume des contes populaires, qui était son dernier livre ukrainien, qui est paru en 1862, elle n'a plus rien écrit en ukrainien, du moins rien de connu. La raison en est simple, à partir de 1863, toute publication en langue ukrainienne est interdite en Russie par une circulaire du ministre de l'Intérieur Valiev, dont on connaît la tristement célèbre expression au sujet de la langue ukrainienne, qui, dit-il, n'a jamais existé, n'existe pas et ne peut pas exister. À cette interdiction s'ajoutera en 1876 l'ukaz d'Ems du tsar Alexandre II, proscrivant non seulement la publication, mais aussi l'importation des livres en dialecte petit-russien, c'est-à-dire en ukrainien, l'apparition de Maroussia dans la série des meilleurs auteurs étrangers, sous l'indication traduite du petit-russien, c'est-à-dire de l'ukrainien, aurait été un subterfuge d'une part pour permettre la publication de Maroussia dans la collection destinée aux meilleurs auteurs étrangers, et d'autre part pour contourner cette interdiction, puisqu'on ne pouvait pas sortir, enfin, publier un livre en ukrainien. Le roman, dont l'action se déroule en Ukraine au XVIIe siècle, est l'époque où l'Ukraine est l'objet de convoitises de ses voisins et les différentes forces essayent de s'unir pour combattre l'ennemi commun. Et donc ce sont des hetmans, donc chef de cosaques de rive droite, de Roshenko, et l'hetman des cosaques du rive gauche, Protovetsky, qui essayent de s'unir. Donc il y a une petite fille de cosaque qui s'appelle Maroussia, qui trouve la mort à la fin du récit en essayant d'aider un envoyé les Cosaques Zaporov, envoyé de Sitch, dans sa mission pour unifier les efforts des différentes forces cosaques dans la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, prise entre les convoitises russes, polonaises et tatares. On peut situer le début de création de Maroussia par la demande de renseignements historiques qu'elle adresse à son premier mari, Markovitch, d'où probablement aussi son pseudonyme, Marko Rovchok, qui était ethnographe et membre actif de la société secrète et patriotique qui s'appelle Confrérie Cyril et Méthode. En avril 63, lors d'un de ses séjours parisiens, lui écrit une demande de renseignements sur l'histoire de l'Ukraine, sur différents personnages, sur ce qui s'est passé. Mais il y a une autre lettre, quelques années donc antérieures, 1857, où il adresse la même demande. Donc on peut penser que peut-être l'œuvre a commencé à germer dans sa tête à partir de la fin des années 60. Il convient d'emblée de reconnaître ici le rôle majeur joué par Ostap Markovitch dans l'œuvre ukrainienne de Marko Rovchok et dans son attachement à la langue, la culture et l'histoire de ce pays qui n'était pas sien. Parce qu'en effet, Marko Rovchok était né en Russie, même s'il a des origines lointaines ukrainiennes polonaises. L'Ukraine était plutôt son pays d'adoption et c'est un pays qu'il a adoré, qu'il a beaucoup aimé, qu'il a beaucoup chanté, probablement en grande partie par le biais de son premier mari, donc Markovitch. Qui doit être considéré comme auteur de Maroussia? Lorsqu'on essayait de répondre à cette question, on comparait le texte initial, c'est-à-dire le texte paru à Saint-Pétersbourg, en russe, et le texte final, c'est-à-dire le texte Hetzel. Or, entre les deux, il y avait un maillon essentiel, c'était le texte de Marko Rovchok. Cette autotraduction inédite et inconnue, dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale depuis 1966, date à laquelle Madame Bonnier de la Chapelle a fait don à la Bibliothèque nationale des archives de Pierre-Jules Hetzel, son grand-père, change radicalement tout ce qui a été écrit jusqu'à présent sur Maroussia. Car cette traduction faite par Marko Rovchok pour Hetzel lui a servi de base pour sa version française de Maroussia, telle qu'on la connaît. Dès lors, la confrontation des deux textes, l'appréciation de l'ampleur des modifications apportées et apparues dans le livre français ne pouvait sans ce document qu'être incomplète et faussée. Car la version française de Marko Rovchok, donc la version intermédiaire qu'elle a fournie à Hetzel, n'est pas conforme à la version russe, ce n'est pas une traduction, c'est déjà un remaniement d'auteur et elle préfigure déjà ce que Stahl, Hetzel, va en faire. Il y a autour de Maroussia beaucoup de mystifications, beaucoup de fausses pistes aussi. C'est Hetzel qui a commencé par brouiller un petit peu le tableau et l'œuvre s'est poursuivie dans la biographie de référence de Hetzel parmi Bonnier de la Chapelle et distillée dans les annotations aux archives Hetzel à la Bibliothèque nationale qui sont donc de la main anonyme. Dans les archives de la Bibliothèque nationale, le volume donc, de la collection Nouvelle Acquisition Française, NAF, 17032, est consacré à Maroussia et on y retrouve, outre un grand nombre de pièces se rapportant à l'élaboration de Maroussia française, trois textes. Il y a un livre de Saint-Pétersbourg daté de 1872, la version d'Hetzel et une traduction fidèle du texte russe. Ce regroupement des trois textes, en apparence judicieux, a le défaut de lancer une fausse piste. Car on est tenté de prendre cette traduction, donc traduction fidèle du texte russe, pour celle de Marko Rovchok. Et dans ce cas, le travail accompli par Hetzel est immense parce qu'effectivement le fossé est très grand entre les deux textes. Nous savons qu'elle a travaillé sur sa traduction. C'est lors d'un de ses séjours à Paris, dicté par des raisons professionnelles au début du mois de mai 1873, à l'hôtel du Louvre, et probablement après en avoir discuté avec Hetzel, que Marko Rovchok commence la traduction de Maroussia. Marko Rovchok choisissait souvent l'hôtel du Louvre, qui est un bel hôtel construit quelques années auparavant. Cet hôtel, actuellement, c'est le Louvre des Antiquaires. Si vous êtes sur la place du Palais Royal, si on regarde bien attentivement, on voit encore les traces des lettres qui ont été enlevées, où il est marqué l'hôtel du Louvre. Donc maintenant, c'est devenu le Louvre des Antiquaires. L'hôtel du Louvre est déménagé plus loin, mais donc l'hôtel du Louvre où Marko Rovchok a séjourné, c'est bien l'actuel Louvre des Antiquaires. Je voudrais vous citer un extrait de lettre que Hetzel a écrit à Marko Rovchok de Paris à Cigé en 1870. Une série de lettres très exaltées qui partaient par ballon monté, parce que Paris était assiégé, et donc il y a des enveloppes où il est marqué par ballon monté. Et c'était de ces lettres qu'on envoie lorsqu'on croit que peut-être ce sont les dernières. Donc Hetzel écrit « J'ai passé devant l'hôtel du Louvre tout à l'heure. Je levais la tête vers vous. Vous êtes encore là. Au revoir ou adieu, cher ami, mais non. Au revoir, ici-bas ou là-haut. Si vous y venez plus tard que moi, il doit s'y trouver une poste restante quelconque. Vous y trouverez mon adresse. Ne nous perdons ni pour ce monde, ni pour l'autre. » Lorsqu'elle était à l'hôtel du Louvre, donc on revient un petit peu vers Maroussia, elle écrit à son futur mari qu'elle travaille avec grande application, se réveillant avant l'aube, car à 7 heures, tout l'hôtel dort et il n'y a pas beaucoup de bruit dans la rue, donc ça veut dire que la rue des Rivoli déjà à l'époque était bien bruyante. Elle termine son travail en juin 1873, lorsqu'elle est déjà en Russie. Etzel reçoit le manuscrit en plusieurs envois en raison de la surveillance policière dont elle a dû faire l'objet au regard de ses liens avec les opposants au régime tsariste. Elle lui écrit « La traduction de Maroussia est finie. Hier, je vous ai envoyé quelques feuillets. Aujourd'hui, je vous en envoie encore. Les recevrez-vous ? J'ai peur que non. Sachez que j'ai eu des désagréments avec la police. Attendez, ne tremblez pas, ne vous indignez point. La police a dû avouer qu'elle a eu tort, que je suis innocente comme un enfant, un nouveau-né. J'ai pourtant peur que mes lettres ne se perdent. » Le subterfuge, donc l'envoi par petits bouts dans plusieurs paquets, a fonctionné, puisque le manuscrit semble bien avoir passé les mailles de la censure et être arrivé durant été 1873 à Paris. Cependant, le manuscrit qu'on retrouve dans ce volume 17032 n'est pas de la main de Marco Wurtschow, de sa belle écriture élancée qui est très reconnaissable. Une des explications introduites par les auteurs donc, du livre de référence, Histoire d'un éditeur et de ses auteurs, Pierre-Jules Etzel, donc de Parménie, de Bonnier de la Chapelle, et cette version est reprise en confiance en Ukraine comme à l'étranger, était que le fait que cette traduction, sans compter qu'elle était fort mauvaise, aurait été faite par le fils de Marco, non pas par elle, mais par son fils. Donc ceci peut éventuellement expliquer l'écriture, parce qu'effectivement, le manuscrit est fait par quelqu'un d'autre. Mais, outre le fait qu'elle a écrit à plusieurs reprises à son mari, elle a écrit aussi à Etzel. Et il y a plusieurs lettres où elle écrit « Je traduis Maroussia ». Il n'y a pas « mon fils », mais « je traduis Maroussia ». Et Etzel connaissait parfaitement son écriture. Comment imaginer qu'elle puisse faire passer pour le sien le travail de son fils? Et pour quelle raison, elle, collaboratrice de longue date, traductrice et auteure de plusieurs publications chez Etzel, le ferait-elle? Cette accusation, difficilement crédible, ne tient pas également dans la mesure où Bordan Markovitch, donc son fils, au moment de la traduction, n'était pas à ses côtés comme en témoigne leur correspondance. Parce qu'on peut retrouver tout à fait, les gens à l'époque s'écrivaient beaucoup, et on peut retrouver les endroits où ils se trouvaient, et Bordan Markovitch n'était pas aux côtés de sa mère. Etzel lui-même, par ailleurs, n'a jamais soulevé ce point, considérant Marco Wurtschow comme seul auteur de la traduction. Voici par exemple sa correspondance ultérieure avec Tourguenev, où il lui écrit « Je vous envoie le texte de Madame Markovitch, sa Maroussia traduit d'elle-même, par elle-même, en français à elle. » Tout en enfonçant le clou, Madame Markovitch a fait, sachant imparfaitement notre langue, l'ébauche de la traduction sur laquelle je travaillais. Donc, il ne conteste à aucun moment que c'est quelqu'un d'autre qui avait fait cette traduction. Ensuite, lorsqu'elle s'inquiète auprès d'Etzel s'il avait reçu sa traduction, elle écrit dans une de ses lettres « Vous avez reçu le petit nid, n'est-ce pas ? Eh bien, un de ces paquets contenait quelques feuillets de Maroussia. Regardez bien, vous reconnaîtrez mon écriture sur le papier bleu. » Et donc, on sait qu'il y a une partie qui a été rédigée sur le papier bleu, et le manuscrit qui se trouve dans ce volume 17032 n'est pas sur papier bleu. Donc, on peut raisonnablement supposer que ce n'est pas du tout de ce manuscrit-là. Un autre détail surprenant dans ce manuscrit est la transcription du nom de l'auteur. Comment quiconque la connaissant aurait pu écrire Maroussia de Marka Wovchka, qui est en fait, qui n'est pas une forme de nominatif. Quelqu'un qui ne la connaît pas, et lorsqu'on écrit en russe ou en ukrainien Marka Wovchka, ce génitif suppose qu'il y a un nominatif. On ne met pas le nom en le transformant. Si cette personne inconnue qui a traduit le texte a écrit Marka Wovchka, ça aurait été valable si c'était un homme. Donc on peut tout à fait supposer que cette personne n'a jamais entendu parler de Marko Wovchok et c'est pour ça qu'elle a écrit Marka Wovchka. Une personne ayant réussi à traduire une œuvre littéraire peut-elle commettre une pareille erreur? Sauf à supposer que le nom de Marko Wovchok ne lui était pas familier. C'est d'ailleurs l'erreur que fait Mérimée lorsqu'il la nomme dans ses lettres soit Marko Wovchko, soit Wovchko. Donc il a plusieurs fois écorché son nom. De même, seule une personne étrangère à l'Ukraine aurait pu écorcher les noms des personnages historiques célèbres dans l'histoire ukrainienne. Ainsi, Bogdan Khmelnytsky devient Khmelnytsky, il y a bien d'autres inexactitudes. Donc, cette traduction exacte du livre russe nous paraît être une copie indépendante et sans lien avec Marko Wovchok, commandée par Etzel. Seulement, pourquoi? Qui a fait la traduction? Quand? À qui appartiennent les annotations en marge? Difficile de le savoir aujourd'hui. Quant au courroux d'Etzel, donc cette appréciation extrêmement négative de la traduction qui a été faite dans sa lettre du 16 juin, remarquons d'abord que cette lettre est antérieure d'une dizaine de jours à l'envoi de Maroussia par Marko Wovchok. Donc il a, somme toute, critiqué quelque chose qu'il n'avait pas encore lu. En revanche, dans sa lettre du 24 juin, Marko Wovchok regrette qu'Etzel n'ait pas aimé Le Petit Nid, une autre œuvre, et décide de ne pas en parler à la traductrice. Donc il y a une lettre où elle écrit « Je regrette que vous n'ayez pas aimé, mais je crains que la traductrice ne soit affligée. Si vous êtes d'accord, je vais la remanier moi-même, mais je ne lui en parlerai pas. » Donc ce faisceau indice indirect en l'absence de la lettre du 16 juin qui n'est citée chez Parménie et Bonnier de la Chapelle qu'en extrait, sans indication du nom de l'œuvre à laquelle on se réfère, me fait supposer qu'en fait, cette appréciation négative ne concernait pas du tout Maroussia, mais concernait une autre œuvre, tout simplement. Donc ce n'est que dans le volume 17030, donc toujours de cette série Nouvelle Acquisition Française, que l'on découvre, non sans émotion, la belle et élégante écriture de Marko Wovchok. On lit en première page, traduction primitive faite par l'auteur, Madame Markovitch, sur la copie de laquelle Stahl a réécrit et refait le livre. Ce qui veut dire qu'il faut, lorsqu'on vient pour la première fois, il ne faut pas prendre la toute première chose qui tombe dans les mains et qui est consacrée à Marussia, mais prendre les autres versions. Et lorsqu'on ouvre ce manuscrit, certaines pages sont bien sur papier bleu. Donc il n'y a pas de confusion possible. Puis dans les volumes suivants, 1031 et 32, on trouve deux autres versions, ce qui fait qu'à la Bibliothèque nationale, il y a trois versions manuscrites d'Hetzel, où on voit bien ses ratures et indubitablement les étapes de son travail, et donc ils sont dus à sa plume, et une version de la main de Marco Rocco, qui elle n'est pratiquement pas raturée, et on voit bien que c'est écrit d'un seul jet, donc à l'évidence, elle travaillait en une seule fois et probablement en vitesse. Remarquons que ce n'est pas à l'occasion de Marussia que la question d'attribution surgit entre Hetzel et Rocco. Ce n'était pas la première fois qu'Hetzel remaniait les écrits de l'auteur. Tantôt il paraissait sous le nom de Marco Rocco, tantôt sous celui de Stahl, tantôt sous les deux noms. C'est en 1869, donc quelques années auparavant, à l'occasion d'un récit de Marco Rocco fortement retravaillé, qu'Hetzel a proposé de signer ensemble, en ces termes, « Je vous propose que nous le signions tous les deux, que nous nommerions un enfant, dont nous serions le père et la mère, où vous seriez pour le cœur, moi pour les membres et pour les allures un peu différentes des vôtres, pour la physionomie la plus française que vous ne l'eussiez pu faire à vous toute seule. » Et c'est en parlant d'une autre œuvre qu'il propose donc ce mariage, et encore une fois, on retrouve souvent ce passage par rapport à Marussia, mais il est antérieur et il parle de toute autre chose, et à cette proposition de marier leurs plumes, comme être de sorte marié par esprit, donc dit-elle, Marco Rocco répond simplement « Avez-vous besoin de me demander si cela me plairait de voir nos deux noms unis sous une même œuvre ? En doutez-vous ? » Donc l'œuvre en question, de le nom initial était « Songe », devenu sous l'impulsion d'Hetzel « Le chemin glissant » et paru sous leurs deux noms à égalité. Comment Hetzel a-t-il travaillé sur Marussia ? Un bon nombre de lettres et éditeurs habiles pourvus d'un flair exceptionnel, Hetzel se met donc à travailler sur le manuscrit et ne néglige rien entre les modifications apportées au texte lui-même, l'étude de l'histoire de l'Ukraine, les illustrations, les recherches sur les proverbes dont abonde le texte original. En effet, Marco Rocco, qui écrit donc dans une langue vivante plus proche du peuple, parsème largement son texte de proverbes, des tournures, des expressions imagées, et Hetzel, voyant bien que certaines expressions ne peuvent pas être reprises telles quelles, avait établi des listes qui se trouvent donc à la Bibliothèque nationale, des listes de proverbes. Il y a une liste des proverbes russes, une liste de proverbes en provenance de Talmud. Donc, il a vraiment travaillé beaucoup pour reproduire ce langage imagé de Marco Rocco. S'agissant du fond historique, Hetzel s'appuie sur une note non signée, également présente dans les archives. Cette note abonde en notations en marge et une des annotations indique « affaires étrangères ». Alors doit-on en déduire qu'elle vient d'un des cabinets du Quai d'Orsay de l'époque ? Si tel est le cas, cette note témoigne de la confusion totale et du peu de connaissances sur l'Ukraine, situation à vrai dire peu étonnante à l'époque. On y mélange allègrement les Cosaques russes et ukrainiens, Khmelnytsky et Razine, Mazepa et Pugachev. Le tableau hybride mêlant l'histoire russe et ukrainienne ne pouvait aboutir qu'à des conclusions consternantes et qui, sans doute, n'ont fait qu'ajouter au désarroi d'Hetzel. C'est probablement aussi la raison pour laquelle il soumettra cette note à Turgenev, tant la divergence lui paraît grande entre la note dont il n'ose pas mettre en doute l'exactitude et le récit de Marco Rocco. Alors, il faut dire que c'est Turgenev qui a présenté Marco Rocco à Hetzel, et il y a eu tout un trio de relations de correspondance entre Marco Rocco, Turgenev et Hetzel. Sachant qu'Hetzel était l'éditeur de Turgenev, et donc lorsque Marco Rocco vient en France et qu'il cherche à vivre de sa plume, Turgenev, un ami, lui présente son éditeur. Hetzel écrit à Turgenev, « Cette note qui m'a été faite sur l'Ukraine est-elle juste ? Madame Markovitch n'a pas l'air d'en savoir la moitié ni le quart. » Et pourquoi ? Parce que cette note était totalement fantaisiste. Bien qu'Hetzel ait annoncé à sa femme avoir terminé Marussia en avril 1875, selon sa correspondance, il modifie le texte en été 1875, lors de son séjour à Bellevue, sur la Côte d'Azur. Il annonce la fin en août, manifestement très fier, dans ses lettres à Marco Rocco et à Turgenev. Il assure d'emblée Marco Rocco dans sa longue lettre du 3 août 1975 que réécrire le texte était l'unique solution. Je cite, « J'ai refait entièrement Marussia en français et de façon à ce que cela pût aller à notre public, il a fallu ma foi en prendre à son aise avec le texte, si vague et souvent si impossible à comprendre dans votre traduction active, qui, en s'en tenant à la lettre, rien n'aurait été compris chez nous. » Il énumère ensuite toutes les transformations apportées chapitre par chapitre, mais encore présentées comme pour approbation de Marco Rocco. Expliquons-nous et n'ayez pas peur. J'espère avoir gardé de vous tout ce qui était charmant, le sentiment, le point de départ et le point d'arrivée. C'est dans cette lettre que pour la première fois, il évoque également la présentation. Ce qui m'a donné le courage, dit-il, de réécrire ce livre, c'est la promesse que je vous ai faite de publier ce livre sous nos deux noms, P.J. Stahl et Marco Rocco. Si vous craignez ce voisinage, ce mariage, au lieu d'en être satisfaite, je mettrai sur le livre seulement P.J. Stahl. imité d'une légende ukrainienne par Marco Rovchok. S'il faut retenir une certitude de cette lettre, c'est bien le fait que Hetzel considère le livre comme un bien commun. Il écrit « Je ne crois pas vous avoir fait perdre, je crois avoir ajouté mes qualités aux vôtres, et si j'ai réussi, l'œuvre aura nos deux mérites. Enfin, ajoute-t-il, j'y ai mis autant de moi que j'ai laissé de vous, il vient à nous deux, et de nous deux. » Il demande à l'auteur une foule d'explications historiques, c'est tellement vague chez vous qu'on ne saurait pas à quoi s'en tenir. C'est à donner sa langue au diable tant tout cela est inexpliqué et pas précis. C'est le précis qui manque chez vous. Pour nous, autres, toutes ces incertitudes sont impossibles. Exige l'orthographe exacte des noms et des lieux. Je voudrais savoir exactement les noms mal écrits par vous des villes et des lieux où l'action se passe. Rendez-moi le nom des lieux, d'hommes agissant dans le livre, et si possible le nom des arbres, des choses qui poussent dans les champs, des plantes, des céréales, bien écrits. Allons, donnez-vous ce mal, sinon de colère, je fiche tout au feu. On ignore la réponse de Marco Rovchok, mais on sait qu'il lui fit parvenir des aquarelles, des paysages ukrainiens qui étaient censés probablement l'inspirer un petit peu. Même demande d'explication sur les lieux, sur les personnages historiques a été adressée à Turgenev, qui tardait à répondre, qui a demandé à voir le texte que Hetzel avait rédigé. Turgenev n'a pas aimé Marussa. Je vous avoue que j'ai trouvé le manuscrit de Madame M assez faible. Je m'étonne surtout que vous n'ayez porté vos ciseaux sur certaines banalités de description qui se trouvent dans la première partie. Malgré tout, la petite Marussa pourra plaire, surtout comme allégorie. Turgenev mentionne la note historique et propose de fournir quelques explications à Hetzel, ce qui serait, écrit-il, long à écrire, mais s'explique en un quart d'heure entre les deux plats d'un déjeuner. On suppose qu'ils se sont expliqués là-dessus de cette manière-là. C'est probablement à la suite de cette rencontre que Turgenev, tout aussi conscient de la nécessité d'expliquer aux lecteurs français les subtilités du fond historique de l'ouvrage, a fait un exposé concis et juste dans ce qui devait être, d'après les déductions de Patrick Waddington, sa préface au livre français. Donc d'après ce spécialiste néo-zélandais de Turgenev, Hetzel n'a pas utilisé ce texte, probablement parce qu'il n'est mentionné nullement Hetzel et n'est parlé que de Marco Rovchok. Donc sa démonstration, qui est brillante, me conduit à considérer que ce texte a toute sa place dans la présente édition, dans cette édition. Le texte de Turgenev est placé à la place où il devait être, c'est-à-dire en préface avant le texte de Stahl. Si Hetzel s'intéressait tant à l'histoire de l'Ukraine, c'est qu'il avait ses raisons. Lorsqu'il prend connaissance du manuscrit, cet Alsacien né en Beauce, comme il s'est qualifié lui-même, perçoit à l'instant dans la petite Ukrainienne toute la portée symbolique et universelle. Il la transforme en appel patriotique et en hommage aux terres que la France venait de perdre. Probablement, la première mention en est faite dans sa lettre à sa femme. Je la dédierai, Marussia, aux enfants de l'Alsace et de la Lorraine, parce que j'ai pensé à eux pendant tout le temps en écrivant cette légende de l'Ukraine, un pays qui a été libre, qui a eu le sort de la Pologne, de l'Alsace et de la Lorraine, et qui s'y est faite malheureusement. Il n'en parle pas tout de suite à Marco Rovchok, mais en fait confidence à Turgenev. Je me suis attendrie de temps en temps sur ma Marussia alsacienne, une petite Jeanne d'Arc enfantine, dont la figure indiquée par Madame Markovitch pour l'Ukraine m'a paru pouvoir s'adapter idéalement à ma Lorraine et à mon Alsace, sous couvert de l'Ukraine. Dès lors, pour répondre à son souhait, il transforme l'œuvre originale en mettant davantage en relief cette dimension qui, certes, présente chez Marco Rovchok, ne revêtait pas des formes aussi évidentes, car une œuvre ouvertement indépendantiste n'aurait non seulement pas été publiée en Russie, mais aurait coûté cher à son auteur et Marco Rovchok à suffisamment fréquenter les milieux ukrainiens pour le savoir. Ainsi, l'exemple flagrant, c'est un chant dans le chapitre 15, où la dimension sociale de Marco Rovchok est transformée par Hetzel en une dimension patriotique, une dimension de révolte pour retrouver l'indépendance du pays. Un barde dans les steppes entonne une chanson, et donc dans la version ukrainienne, cette chanson a cette version-là. Dans le monde entier, on ne trouve point un malheureux aussi misérable qu'un jeune ouvrier sans ressources. Sans ressources, il travaille pour gagner sa misérable vie. La sueur lui coule du front, et l'aveugle, l'aveugle. Mais le patron n'est jamais content et il grogne. Le patron grogne, sa femme ne se gêne point pour dire des injures. Elle ne se gêne point. Donc là, on voit ce que j'avais dit tout à l'heure, toute cette dimension sociale et la révolte de Marco Rovchok contre l'exploitation des couches ouvrières et paysannes. Et voilà ce qu'en a fait Hetzel. Laissez-nous nos prairies, laissez-nous nos steppes. À qui sont-elles sinon à nous? Est-ce que leurs fleurs vous connaissent? Elles ne vous connaîtront jamais. Rien qu'à vous voir de loin, elles s'afflétrissent. Craignez les pleurs de l'innocent. Ils retomberont un jour sur celui qui les fait verser. Craignez le silence de l'homme injustement frappé. Le Knout n'a jamais tué une âme. Et l'âme du père, injustement frappée, s'ajoute à l'âme de l'enfant. Les colères s'y amassent. Vous voyez la transformation d'accent, en fait, qui est fait de l'accent social vers l'accent de révolte, de libération nationale. Ce que Marco Ovchok pensait, mais sans doute mais ne pouvait pas mettre dans son œuvre. Curieusement, tout en considérant que l'œuvre devait montrer le chemin de la lutte aux Alsaciens et aux Lorrains, Hetzel ne considérait pas l'Ukraine comme digne d'exister en dehors de la Russie. Dans cette même lettre à Tourguéniev, il affirme, donc c'est quand même un exemple à contrario, « Je me suis renseignée sur la façon dont l'Ukraine était devenue russe. C'était fatal pour elle d'y arriver comme l'eau des ruisseaux arrive à la mer. » La même affirmation se trouve dans une version à peine adoucie dans une lettre à Marco Ovchok. L'Ukraine avait raison de vouloir être indépendante, mais sa position géographique rendant cette indépendance impossible, elle était fatalement destinée à venir se fondre dans le grand empire russe. Certes, la note de synthèse fantaisiste qui lui a été fournie était pour quelque chose, mais s'il pense que l'Ukraine devait être russe, à ce moment-là, l'Alsace devait rester entre les mains des Allemands. Donc il transforme quand même sa démonstration. Nul doute qu'il était sincère lorsqu'il écrivait « Je dédie l'histoire de cet héroïque enfant aux enfants de notre Alsace. J'ai pensé à eux. Je ne m'en cache pas en écrivant. Ce que j'y ai ajouté, c'est pour eux, et ce que j'y ai ôté, pour eux encore, eux seuls pourront, d'où ils sont, parfaire mon œuvre. » Marussia est publié dans Le Temps, donc quotidien fondé par, en 1861 par Netzer, ami et compatriote alsacien d'Hetzel, dans le numéro allant donc du 15 décembre 1875 au 9 janvier 1876. Puis vient la publication dans le magasin d'éducation et de récréation, dans le tome 27 en 1878. Cette publication dans la collection est précédée d'une annonce bienveillante de Jules Verne dans le volume 26 en forme de lettre adressée à Hetzel qui semble-t-il hésiter, mais très certainement il s'agit d'un procédé publicitaire de l'auteur incité par Hetzel lui-même, probablement c'est même lui qui a écrit. Sous la plume de Jules Verne, on y lit « Marussia a paru il y a 2 ans dans le journal Le Temps. Ce livre charmant y a obtenu un très grand succès. Pourquoi hésiter à l'offrir à nos lecteurs uniquement parce que quelques-uns, en très petit nombre, peuvent l'avoir lu dans le journal de leur papa. Permettez-moi de vous dire que je ne partage pas votre scrupule. D'une part, le magasin d'éducation et de récréation est le seul journal qui publie presque constamment les primeurs, et d'autre part, il ne suffit pas de donner à nos jeunes abonnés le goût de lire, il est bon de leur donner aussi le goût de relire. Votre Marussia, mon cher ami, est une perle qui ne peut que gagner à être vue, même une seconde fois, par ceux qui la connaissent. » À cette occasion, Marussia, donc, qui vient, est accompagnée d'illustrations dont Hetzel a confié la réalisation à un autre enfant d'Alsace, Théophile Schuller, encore en 1875, c'est-à-dire que dès l'apparition de Marussia dans Le Temps, il commande déjà les illustrations, ce qui veut dire que probablement il songeait déjà à une publication en volume, indépendamment du succès qu'emporterait le texte dans Le Temps. Théophile Schuller, peintre alsacien et collaborateur de longue date d'Hetzel, il est natif de Strasbourg, il s'est réfugié en Suisse en 1871 et il partage avec Hetzel la douleur patriotique. Il lui écrivait « Si le Teuton n'était pas là-bas, je serais le plus heureux de cette terre. » Schuller reçut en même temps que la commande pour Marussia, faite en des termes fort alléchants, une documentation appelée à l'aider dans son travail. Il comprit parfaitement les dessins d'Hetzel et il assura de trouver cette fine figure de Jeanne d'Arc. En réponse, Hetzel a déclaré pouvoir dormir tranquille, certain que Schuller allait réaliser la petite Marussia à la fois intrépide et angélique de ses rêves. À la réception des premières planches, Hetzel trouve beaucoup à redire. Les bouches et les yeux et les moustaches, l'expression du visage, les mains, le moindre détail est corrigé et précisé. Il y a eu un échange épistolaire important qui peut être consulté à la Bibliothèque nationale entre Hetzel et Schuller et il a fallu beaucoup s'écrire pour qu'Hetzel soit enfin comblé. Je suis ravie, je suis touchée au-delà de tout et de ce qu'elle me montre et de ce qu'elle me dit. Il faut dire que le type de Marussia, je l'ai caressé comme on caresse son enfant. Et si je suis heureux de le voir tel que je l'ai imaginé, vu au-dedans de moi-même, que j'ai envie de crier au miracle, de voir un portrait si bien fait d'une idée. Toutes les Marussias sont, sous tous leurs aspects, aux pieds, au corps, en tête, en face, au profil, de 3/4, réalisent absolument mon rêve. Cette longue lettre contient bien d'autres remarques, passant en revue le moindre détail de traits ou d'expression de tous les personnages, pour finir sur un dernier conseil sur les esquisses. Ces types d'Ukrainiens, d'après ce qu'on me dit, sont tous superbes et ont quelque chose d'oriental, entre les Turcs et les beaux Arabes, figures bibliques pour ainsi dire. Donc, un frontispice devait accompagner chaque chapitre, auquel il fallait ajouter les dessins au début et à la fin de chaque chapitre, de sorte qu'il y avait 3 dessins différents pour chaque chapitre. Après avoir longuement discuté les personnages, Hetzel s'investira tout autant dans les illustrations, les scrutant une à une, se mêlant à la fois de la composition, des habits, des postures et des expressions des personnages. Le travail se fut terminé vers la fin de l'année 1876 et au début de l'année 1877, puisque c'est dans sa lettre de décembre que Schuller annonce la fin prochaine de Marussia, et en mai, les deux hommes discutent déjà de nouveaux ouvrages à illustrer, Schuller exprimant le souhait d'avoir une œuvre plus légère que cette charmante Marussia qui lui a tourmenté le système nerveux. La publication de Maroussia dans le magasin d'éducation et de récréation était accompagnée de 46 dessins de fleurs. La publication de 78 du livre dans la bibliothèque d'éducation et de récréation en contient 61. Cependant, le livre ne contient pas uniquement les dessins de Théophile Schuller, qui sont facilement identifiables aux trois lettres TSH stylisées, donc à chaque fois dans différents endroits, parfois cachés dans le dessin. Il y a 9 autres dessins qui tranchent, pour certains, très nettement avec la patte Schuller. Ces dessins ne sont pas signés, soit sont signés de Charles Godet. Je ne trouve aucune trace des circonstances de cette collaboration sur de Maroussia entre Charles Godet, qui est devenu un graveur de renom, mais qui, à l'époque de la création de Maroussia, était très jeune. On peut supposer qu'à la mort de Schuller, parce que Schuller meurt très peu de temps après avoir fini les dessins et avant l'apparition du livre, on peut supposer qu'Hetzel manqua de quelques dessins et fut obligé de faire appel à un autre peintre pour compléter, et que souhaitant faire la dédicace à la fille de Schuller, dont ce fut la dernière œuvre, il s'arrangea pour ne pas mentionner le nom de ce jeune graveur, probablement un arrangement financier quelconque ou autre. Donc, quant au dessin, malgré les soucis affichés tant par l'éditeur que par le peintre de faire une œuvre réaliste, malgré la documentation, ou peut-être à cause de cette documentation, on ne trouve pas grand-chose d'ukrainien dans ces dessins. Ces très beaux dessins et gravures représentent l'univers russe avec tous les attributs du monde moujique. Il suffit de jeter un regard sur les izbas, les balalaïkas, les chemises d'hommes et les habits de femmes, les chaussures, ainsi de suite. Même les cosaques sont des cosaques russes tels que Paris a dû les voir à peu près à cette époque-là. Donc cette malédiction frappera le livre à chaque nouvelle parution. Et malgré les nombreux peintres qui illustreront les rééditions successives, et donc vous en avez plusieurs exemples ici, il y aura très peu de choses véritablement ukrainiennes dans ces dessins. Pour terminer sur Schuller, Marco Rostchok ne semblait pas apprécier ces illustrations. Elle les a qualifiées quelques années plus tard de peu réussies, sans plus de précision, mais il me semble toutefois plus difficile de croire que cette appréciation concerne la qualité du travail, mais plutôt l'image qu'elle représente, parce que ça ne correspondait pas à l'univers ukrainien. Il faut dire aussi qu'après avoir écrit le livre, après sa publication dans le temps, Hetzel continuait à le remanier, c'est-à-dire outre les trois manuscrits qu'on peut trouver dans la Bibliothèque nationale, on a découvert récemment un autre manuscrit, et ce sont des ratures carrément sur le texte du temps où Hetzel continuait à améliorer et à changer parfois un mot, parfois une expression, parfois ajouter quelque chose. Et à cette occasion-là, il avait envie d'ajouter un vrai chapitre, un 22e chapitre sur l'hiver, c'est-à-dire qu'il a pensé que l'hiver est bien évidemment un attribut nécessaire quand on parle d'Europe de l'Est. Il a commandé un beau dessin de traîneau et Noël, il a demandé quelles sont les traditions de Noël, donc il y a un patriote polonais qui lui a fait tout un récit sur les plats traditionnels, sur plein de choses. Et finalement, ce chapitre n'a pas été, probablement aussi parce que Schuller était mort et il ne pouvait pas avoir ce beau dessin en frontispice, donc ce chapitre 22 n'a pas eu lieu, si j'ose dire, et ce passage sur l'hiver a été ajouté dans le chapitre 19. Donc on retrouve un petit peu la neige, le retour de Maroussia pour les fêtes dans la famille. C'est de nouveau le magasin d'éducation et de récréation dans le volume 28 qui annonce la sortie prochaine du livre par la plume d'Hetzel qui dévoile clairement ses intentions. Fils d'Alsace, je dédie Maroussia à ma petite amie Elsa, à la fille de Théophile Schuller, l'auteur des beaux dessins qui illustrent Maroussia, les derniers hélas que le célèbre dessinateur alsacien ait composé. Maroussia restera parmi les livres que j'ai écrits pour l'enfance, mais en vue de tous, mon œuvre de prédilection. Je l'ai écrit tes yeux sur l'Alsace, je l'ai dédié à une enfant de l'Alsace. J'ai besoin de croire que ce livre sera compris par tous les cœurs dans lesquels vit l'amour de la patrie. Ce sentiment, l'amour du pays, est aussi nécessaire et d'ailleurs aussi naturel à l'enfant qu'à l'homme. On ne saurait trop tôt le faire éclore. Les nombreuses et touchantes lettres que j'ai reçues dans le cours de sa publication dans le magazine d'éducation et de récréation m'autorisent à penser qu'il a obtenu le genre d'intérêt que j'ai voulu y mettre. J'ai le plus vif désir qu'il se répande à cause de la pensée qu'il anime. Et ce me sera une joie patriotique, en dehors de toute satisfaction personnelle, de voir son succès en volume répondre à son succès dans notre magasin. Maroussia sort en 1878 dans la bibliothèque d'éducation et de récréation, la bibliothèque est une sorte d'annexe du magasin et qui publie les meilleurs ouvrages. Elle est publiée sous trois formes, le brochet au prix de 7 francs, l'édition en toile au prix de 10 francs et celle reliée et mise en vente au prix de 11 francs. Le 17 décembre 1878, Maroussia de Pégistal, d'après la légende de Marco Rostchok, est enregistré à la Bibliothèque nationale de France. Donc, cette dernière version est enrichie d'un nota bene qui prolonge l'histoire, laissant supposer que Maroussia n'était pas morte. En effet, la fin qui laisse un petit peu ouverte cette possibilité de Maroussia qui ne serait peut-être pas morte, était ajoutée à l'occasion de l'apparition du livre, et cet ajout, semble-t-il, est dû à une petite lectrice qui a supplié dans sa lettre Hetzel de ne pas faire mourir la petite héroïne. Donc c'est à l'occasion de l'apparition du livre que nous assistons à une empoigne entre Hetzel et Turgenev. Ce dernier a sans doute protesté contre le peu de place laissée à Marco Rostchok dans la publication et par conséquent dans le concert de louanges qu'a recueilli Maroussia. On ignore quelle forme revêtir cette protestation, toujours est-il qu'elles ont dû parvenir aux oreilles d'Hetzel, puisqu'il écrit à Turgenev deux lettres courroucées. Il énumère dans la première tout ce qu'il a fait pour la littérature russe et Marco Rupchok elle-même, transformant un livre qui n'aurait eu aucune chance de réussir en un livre à succès, et qui a eu, dit-il, le scrupule de marquer le nom de l'auteur. On est mal à l'aise de lire cette protestation grandiloquente, avec son début qui attarde Turgenev, ses justifications, mais surtout la fin, car Hetzel, l'air innocent, demande des éclaircissements sur le livre paru en Russie, il y a 6 ans. J'ai la petite plaquette russe imprimée en 72 à Moscou de 132 pages, sur laquelle, dans son séjour ici il y a bien longtemps, Madame Markovitch a fait, sachant imparfaitement notre langue, une ébauche de traduction sur laquelle je travaillais. Il y a ceci, Maroussal traduit du petit russien par Marco Rupchok. A-t-elle traduit cela de notre, ou ayant écrit cela d'abord en petit russien, l'a-t-elle traduit en russe? Avouez que son titre est moins clair que le mien et lui obéit davantage. Pourquoi et comment peut-on poser une question pareille à Turgenev en 1878, des années après l'apparition du livre, la collaboration avec Rupchok, la publication dans le Temps et dans le magazine d'éducation et de récréation? Et qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce titre? La deuxième lettre d'Hetzel, datée du 24 décembre, commence par les assurances d'attachement à Marco Rupchok qui assure Turgenev que c'est Marco Rupchok elle-même qui aurait demandé à ne pas figurer en tant qu'auteur, car son enfant aurait été trop changé, chose qui semble évidente à Hetzel et que tout homme de bonne foi serait de son avis. Si vous aviez sous les yeux, vous verriez qu'entre le point de départ et l'arrivée, j'ai tellement mis des choses, que j'ai ajouté d'autre part à ce point, que j'ai redessiné les caractères de façon à les mettre sur les pieds, refait et créé les dialogues, les événements de telle sorte que je peux croire et que je crois que d'un livre qui n'aurait pu être accepté en France et avoir du succès, je fais un livre qui se trouve être à peu près du goût de tout le monde. Pourquoi tant d'arguments? Turgenev n'était pas suffisamment au fait de l'élaboration du livre, de deux livres, pour pouvoir le constater lui-même. Et que dire de cet autre passage? J'ai eu le même sentiment que vous en lisant un de ces articles faits spécialement sur Maroussa, et où l'on parlait de la création de cette petite figure comme si Juste était son seul père. Mais comme je n'avais demandé aucun de ces articles, je n'y attachais que l'importance qu'ils avaient au point de vue du succès du livre. Cette autre affirmation qui sonne presque comme un argument de trop sur les motivations qu'aurait eu Marco Rupchok. Je crois que les raisons politiques au départ vis-à-vis de son pays lui ont fait désirer de ne pas être plus dans le livre français que je n'ai fait qu'en pensant à l'Alsace. Là aussi, Turgenev n'est-il pas en mesure lui-même d'apprécier la situation politique russe? Et donc enfin, à la fin donc, de la lettre, Hetzel promet d'ajouter une préface à l'édition IN 18 dès 1879. Donc effectivement, cette préface sera ajoutée donc, au petit livre, mais le volume prestigieux, donc notre travaux, n'aura jamais cette préface. Alors, Turgenev répond sans embâge, il s'agit pour moi, dit-il, d'une question de justice littéraire et internationale. Et, avec une ironie bien perceptible, il me semblait que vous deviez être un peu gêné de tous ces éloges unanimes qui passent sous silence le nom de Madame M, ce nom qui s'est trouvé pourtant à côté de vous, autre sur le petit roman, qui n'est pas une légende lorsqu'il parle dans le feuilleton du Temps. La dernière phrase relève une autre divergence entre les deux hommes. Pour Hetzel, et on comprend bien son raisonnement, il était important de considérer Maroussa comme une légende dont, somme toute, il n'a fait qu'une version après en avoir appris l'existence par Marco Rupchok. Turgenev, à juste titre, qualifiait Maroussa de roman, qu'il s'agit véritablement d'une création originale de Marco Rupchok. Il y a un autre échange où Hetzel lui dit que Marco Rupchok l'a assuré qu'il s'agissait bien d'une légende, qu'il en a bien d'autres, qu'il somme toute, il n'y a pas de mal à lui avoir emprunté une légende. Je n'ai trouvé aucune trace de cette conversation et de fait, si en Ukraine effectivement il y a beaucoup de légendes, Maroussa est véritablement une œuvre originale écrite par Marco Rupchok. Ne souhaitant probablement pas aller plus loin, Turgenev concède, vous avez jugé bon de supprimer, Madame même vous approuve, tout est parfait, mettez que je n'ai rien dit. Probablement le même jour, le mardi 31 décembre 1978, Turgenev a écrit « Mille remerciements pour l'envoi de Maroussa avec préface. Tout est bien, qui finit bien. » Hetzel entreprend la même offensive et pourtant bien différente dans le ton du côté de Marco Rupchok, découverte mise à jour par Michel Cadeau dans les lettres inédites conservées au musée Pushkin à Saint-Pétersbourg. Le 4 décembre 1878, soit rappelons-le 3 ans après la publication de Maroussa en France et 5 ans après que Marco Rupchok lui ait envoyé sa traduction, sans parler de la publication au printemps-été de la même année 78 dans le magasin, Hetzel lui annonce la sortie de Maroussa en livre en ces termes. J'ai écrit ce livre, Les yeux et le cœur sur l'Alsace. J'ai pris votre petite ukrainienne pour en faire une petite patriote selon mon âme française. Et je ne crois pas qu'elle y ait perdu. Vous êtes bien gentils, vous autres, quand vous vous y mettez. Mais que vous êtes donc incomplet. Vous lirez Maroussa sans préoccupation personnelle, et vous vous direz, je l'espère, que pour avoir été répondu, remise au creuset à la française, sans préoccupation de son pays d'origine, elle n'aura pas perdu. Mais où faut-il l'envoyer? Je l'ai remanié encore et augmenté pour ce volume d'un chapitre nouveau. Votre petite fille ne pensait vraiment pas assez à sa mère et à sa famille. Je lui ai fait un chapitre qui en fait une enfant tendre pour ses parents, ce qui ne gâte rien à la patriote. Il continue de protester de sa bonne foi. Et dans cette longue lettre, la seule chose qui compte est probablement l'aveu de la première phrase. Plus j'ai travaillé sur votre et notre Maroussia, plus j'ai regretté que vous ayez, ayant trouvé le type charmant, dont je regrette de n'être que le seul père, de n'être pas le seul père, le père tout entier, que vous ayez surchargé le livre de tant de choses qui défont le caractère de vos héros, de ces dialogues du vieux musicien avec le courtisan russe qui n'aboutissent à aucune action. Vous avez un don de mettre sur pied des personnages qui pourraient rester charmants s'ils demeuraient conformes à eux-mêmes. Pourquoi les gâchez-vous? Il faut 100 fois plus de logique dans une œuvre d'art que dans la vie réelle. Tout ce qui est inutile, inuit. Tout ce qui est fait vide aux obscurités, le tue. Comment n'avez-vous pas pensé à faire après une première année de guerre victorieuse, un hiver tranquille, pour que le lecteur eût son répit, et vos personnages aussi, pour que Maroussia pût aller revoir avant le drame de la fin de sa famille, comme je l'ai fait? Je vous demande, comme votre ancien dans les lettres, de penser à tout cela. Que vient faire toutes ces remontrances, sinon de montrer à Marco Urchok que son livre ne vaut pas grand-chose sans la réadaptation de celle. Enfin, grand seigneur, Hetzel l'informe de la petite préface dans nos éditions 18 et autres futures où je dirais que les éloges qu'on a fait à Maroussia doivent être reportés sur vous pour une bonne part. Donc, la petite préface accompagne les éditions 18, mais comme j'ai déjà dit, celle in octavo, l'édition prestigieuse, ne semble l'avoir jamais eue. Et cette préface est à la fois un hommage rendu à Marco Urchok, mais également un hommage à Hetzel lui-même et à tout le travail qu'il a fait sur le texte. On ignore tout des réactions de Marco Urchok. Nous n'avons trouvé aucun commentaire, aucune ligne de sa main au sujet de Maroussia d'Hetzel, du texte, de sa présentation, ni au moment de l'élaboration, ni au moment de la publication. En janvier 1878, elle épouse Boba Tchouchenko, dont son deuxième mari, et quitte Saint-Pétersbourg pour Stavropol avec son petit-fils. On ignore même si elle a reçu la dernière lettre d'Hetzel. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a jamais tenu rigueur à Hetzel à ce sujet, ni apparemment jamais remercié Tourguenev d'avoir voulu la défendre. Hetzel, en revanche, en a gardé rancune à l'auteur russe. Lorsque plusieurs années plus tard, la correspondance entre Marco Urchok et Hetzel reprend en 1883, c'est à l'initiative de ce dernier et, hasard, peu de temps après la mort de Tourguenev, à qui il trouve le moyen de décrocher des piques. Il ne cesse d'ailleurs de se justifier, donc même plusieurs années plus tard, en témoignant d'un malaise toujours présent. Il vous faudrait à chacun de vous, auteur russe, autre chose qu'un simple traducteur, un collaborateur aussi fort que l'auteur qu'il voudrait faire accepter chez nous et qui se donnerait autant de mal, qui dépenserait autant de talent et plus de temps à cette besogne ingrate qu'il ne lui en faudrait pour faire un bon livre original de son cru. Encore est-il, quand il se serait donné tout ce mal, l'auteur russe aurait l'ingratitude de trouver qu'il a mutilé son livre. Si vous voulez faire un examen de conscience sur un livre, vous comprendrez cet apologue. Pense-t-il à Vovchok, à Tourguenev, aux deux? On l'ignore, mais les dispositions sont ouvertes. J'ai pris le parti, donc, aussi bien dans la présentation que dans la préface, de ne pas analyser les deux textes, de ne pas les comparer, car il me semble que ça doit faire l'objet d'une étude spéciale, une comparaison attentive chapitre par chapitre. Entre les changements de texte évidents, il serait curieux de voir la manière de traiter les proverbes et les expressions imagées, analyser le petit nom d'Antigone donné à Maroussia par Marco Urchok, que Hetzel ne reprend pas dans sa version française, d'observer la comparaison de Maroussia avec une fée chez Hetzel, ce qui, à mon avis, vient tout droit de Charles Perrault, et ce qui, à coup sûr, n'est pas du tout propre au folklore ukrainien. Il n'y a pas de fée, il y a d'autres créatures magiques, mais pas de fée. Il est amusant aussi de voir l'intrusion de la science dans le texte de Stahl. Donc, est-ce que cette intrusion est due à Hetzel, mais probablement à Verne, lorsque le seigneur russe meurt foudroyé? Et ça, c'est dans ce passage dernier, absolument pas chez Marco Urchok. On pense que, enfin, c'est une supposition qui a déjà été faite par un auteur en 82, que c'est sous l'influence des découvertes scientifiques de Verne que Stahl introduit cette dimension scientifique. Il faut comparer toutes les versions du texte disponibles, mais à ce stade, il faudrait aussi convier d'autres témoins à cette comparaison. Car Hetzel était non seulement éditeur et écrivain, apprécié des contemporains mais totalement oublié aujourd'hui, mais aussi un adaptateur. L'activité où il était par ailleurs plus heureux qu'en tant qu'écrivain. Car la postérité n'a retenu de son œuvre littéraire que ses adaptations. Maroussia n'était pas le seul livre étranger à passer par les mains d'Hetzel. Plusieurs d'entre eux ont déjà fait l'objet d'études de paternité. Donc, et ces livres-là, ce sont d'abord Les Patins d'argent, qui jusqu'à présent sont édités sous le nom du vrai auteur, de Mary McDutch, et sous le nom de Stahl. Oh, il s'agit du même texte, en fait. Si au début il a publié sous son nom, d'après l'œuvre de Dodge, ensuite il y a eu des protestations, et finalement, cet auteur qui a par ailleurs écrit d'autres livres a eu le droit de citer sous son nom, mais jusqu'à présent en France on édite sous les deux noms. Et la même mésaventure est arrivée à un autre roman bien connu, les quatre filles du docteur March.
Ah, oui.
On ignore que Stahl aussi l'avait modifié à l'époque, et donc jusqu'à présent, il est édité sous le nom de Stahl et sous le nom d'Al Scott. Bien évidemment, Al Scott étant un auteur extrêmement connu, il était difficile de cacher, si vous voulez, son nom, alors que Marco Rovtchok, il a disparu des horizons français. En Ukraine non plus, personne n'allait vraiment protester. Et donc son nom, si vous voyez, toutes les éditions postérieures, en fait, ne mentionnent plus son nom. Tous les livres sont édités sous le nom de Stahl. Donc Maroussia doit désormais faire partie de cette enquête, tout comme l'étude sur Maroussia ne peut faire l'économie d'une comparaison des transformations et destins de ses autres auteurs, et dont les deux là, mais il y a d'autres, il y a le petit Robinson de Louis. Maroussia a connu un excellent accueil. Déjà en 1975, elle a enchanté Madame Balzac, née Anska, donc Madame Balzac qui était polonaise et qui avait un grand domaine en Ukraine. Et elle a beaucoup plu plusieurs personnes de la noblesse polonaise, comme témoin des lettres qui avaient été reçues par Hetzel. Un entrefilé dans le siècle loit aussi bien le délicieux récit de Stahl que les dessins de Schuller. La République française, dans la revue des livres d'Etrenne, fit éloge de la Jeanne d'Arc des steppes, d'une façon qui ne pouvait qu'enchanter Hetzel. Il faudrait plaindre ceux et celles qui se repentiraient d'avoir pleuré et d'avoir souri tout ensemble à cette légende. Ils ne mériteraient ni une patrie, ni un foyer. Mais c'est le temps qui fut l'article le plus étendu et le plus élogieux au livre, de nouveau qualifié de délicieux récit. Il y a eu aussi beaucoup d'appréciations qui ont été publiées dans le magasin, et je ne vous citerai qu'une seule qui est due à la plume de Jules Sandeau, qui a été écrite sous forme d'une lettre d'un grand-père à sa petite-fille. « Voici ces étrennes, ma chérie. On t'en offrira de plus riches, tu n'en recevras pas de plus aimables. J'avais pensé tout d'abord de t'envoyer tout simplement un sac de pralines. Mais là, ma friandise, elle aussi, même chez les enfants de ton âge. Lis le volume que je t'envoie. Outre la grâce qu'on y respire, il court à travers les pages de ce livre un souffle patriotique, un air âpre et salubre qui ouvre l'appétit du sacrifice et du dévouement. Je voudrais que cette Maroussia devienne ta sœur, ton amie, ta compagne. Tu achèves de grandir dans des temps sérieux, où les enfants eux-mêmes doivent s'exercer à l'apprentissage des devoirs de la vie, où ils ne sauraient épeler trop tôt le saint nom de la patrie, le plus grand nom après celui de Dieu. En se dévouant et en mourant pour son pays, la petite héroïne de l'Ukraine t'apprendra comment il faut aimer la France. Cela vaut bien un saint nom. Donc le 30 mars 1879, donc quelques mois après l'apparition, Maroussia fut couronnée par l'Académie française à l'unanimité. L'ouvrage est recommandé par le ministère de l'Instruction publique pour les bibliothèques municipales, scolaires et populaires, et les prix scolaires. Il est adopté par plusieurs municipalités, dont celle de la ville de Paris, et à cette intention, Maroussia est publié avec la première planche vide, afin d'y apposer les armoiries de la localité. Donc, et c'est en 1991 qu'elle est publiée dans la bibliothèque des succès scolaires, c'est une nouvelle série qui a été lancée par Stahl, donc c'est le livre vert. En juin 1879, ce lieu est embarrassant incident. La controverse ressurgit quand la presse fait écho du rappel de mention pour Maroussia et son auteur par l'Académie française. Le 13 juin 1879, le 19e siècle, publie une lettre, reprise deux jours plus tard dans La France, qui aurait été envoyée par Hetzel, où il proteste contre les honneurs de l'Académie en ces termes. L'Académie, ou vous, monsieur le rédacteur, avait été induit dans la plus profonde erreur. J'ai immédiatement envoyé une protestation au palais de l'Institut. Je ne suis pas l'auteur de Maroussia. Avoir reçu une traduction, apporter les changements nécessaires à un ouvrage passant d'une langue dans une autre, telle est ma plus modeste part. De là à mériter un prix, la distance est grande. Et l'auteur de la missive de menacer de révéler le nom du véritable auteur de cette œuvre exquise qui aurait toujours voulu garder l'anonymat, disait la lettre. Cependant, le lendemain, un démenti sanglant tombe. Le véritable Hetzel, ce n'est pas lui qui avait écrit la première lettre, déclare n'avoir jamais écrit cette lettre et avoir rendu justice, dit-il, à l'auteur de Maroussia dans la préface, mais nous l'avons vu, préface d'explication tardive et du bout des lettres. Et il dit aussi l'avoir rendu justice au véritable auteur en le mentionnant dans le titre. Le journal en convainc, présente ses excuses et l'affaire semble close. On ignore si quelconque est allé demander l'avis de Marco Rovtchok. Alors Patrick Waddington, donc le spécialiste néo-zélandais de Tourbillière, pense que cette attaque anonyme était préméditée par les amis de Marco Rovtchok, excédés de voir la manière dont elle avait été privée de son œuvre. Il est même l'hypothèse que ce fut Tourguenev lui-même, puisqu'il s'agit de quelqu'un manifestement au courant des circonstances de la création de l'œuvre. Senia Kibujinski, donc chercheuse canadienne, suppose que la raison pouvait être entre autres financière. Marco Rovtchok ne bénéficia probablement jamais de ce que généra Maroussia, et en effet, on tentait de ne pas écarter cet argument. Martin, qui a épluché scrupuleusement les contrats de Jules Verne et les comptes de la maison Hetzel, affirme que pour l'ensemble de ses œuvres, Jules Verne a touché trois fois moins d'argent que l'éditeur Hetzel. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu un enjeu financier, mais en tout cas, très simplement, ma couverture n'a jamais rien touché. Encore une fois, on ne connaît pas le contrat. On ignore totalement les termes financiers de leur collaboration au stade actuel, qu'il s'agissait de la rémunération pour l'écriture, pour l'édition ou pour la traduction, parce qu'elle a quand même beaucoup traduit aussi. Et nous ne saurons probablement jamais qui était derrière cette opération de publication. Tourguenieff était déjà relativement âgé. Est-ce qu'il pouvait faire cette espièglerie? Je pense qu'on ne peut pas totalement exclure les milieux polonais avec lesquels Marco Ovchok était très proche et qui était aussi au courant de l'élaboration du livre. Le succès de Maroussia ne se démentait pas. Les éditions en France se sont succédées au rythme régulier dans cette première moitié du XXe siècle, qui a tant de fois fait appel à la fibre patriotique. Et donc les plus grands succès de Marco Ovchok à partir de la guerre franco-prusse, ensuite il y a la première guerre, jusqu'à la deuxième guerre, le livre est réédité régulièrement et souvent avec autant de succès. En 1914, Jules Hetzel, le fils de Pierre Jules Hetzel, est amené peu avant la guerre à céder la maison librairie et stock à la librairie Hachette. C'est cette maison d'édition qui éditera et rééditera Maroussia jusqu'à dans les années 80, d'abord dans la collection Hetzel avec quelques dessins de Schuller, la préface et l'indication du nom de Marco Ovchok. Puis vient les éditions de la bibliothèque de la jeunesse et dans la plus célèbre de leurs collections, la bibliothèque verte. Le plus grand avantage de ces livres, d'abord sans illustration et puis avec des dessins de plus en plus élaborés, faisant succéder trois peintres, est d'avoir gardé la totalité du texte avec tous les chapitres. Hachette reproduit la totalité du texte. Par la suite, au fur et à mesure des rééditions, le livre est allégé, les chapitres disparaissent au profit des résumés ou bien on assiste à l'arrivée des adaptations. Maroussia a été édité chez Nathan, Rouge et Or, Deux Coques d'Or, Emma, Lecture et Loisirs de la librairie Charpentier, Club des livres des jeunes. Le nom de Marco Ovchok ne figure pas dans toutes ces petites éditions. Quant à la dizaine de peintres qui se sont penchés sur cette œuvre, il est amusant d'observer l'évolution de l'image de Maroussia, qui a quitté l'aspect allégorique de Schuller pour devenir un visage d'une petite fille de son temps, facilitant par là même l'identification de ses petites lectrices et laissant ainsi rêver des générations entières de filles. Par exemple, on voit bien que c'est déjà une petite fille du XXe siècle. La plus amusante, en mon sens, c'est les Deux Coques d'Or, qui, dans les années 60, font une sorte de Brigitte Bardot. Parce que là, ce n'est pas une fille de 12 ans, hein, c'est une séductrice. Oui. Ce qui est intéressant, c'est par exemple le petit garçon dans le livre a des sabots. Alors je vous assure, ce n'est pas du tout la tradition ukrainienne. C'est vraiment fait pour que les petits français puissent mieux s'identifier à ces personnages parce qu'il n'y a pas du tout les traditions des sabots en Ukraine. La reprise des éditions coïncide avec l'accession de l'Ukraine à l'indépendance en 1991. France Loisir accompagne son édition d'un dossier postface intitulé Maroussia, un cri de liberté, où on lit que ce livre, loin d'être un joli récit pour enfants, est, je cite, la justification et l'explication de la toute récente indépendance de l'Ukraine. À travers ce livre, nous comprenons mieux pourquoi, de Kiev à la mer Noire, tant d'hommes et de femmes ont voulu retrouver leur souveraineté, leur autonomie, l'usage de leur langue et le libre exercice de leur religion. Marco Ovchok, qui encore moins Hetzel, ne pouvait se douter qu'à la fin du XXe siècle, on chercherait dans Maroussia la compréhension de phénomènes politiques majeurs qui influencent et influenceront sans aucun doute notre vie de tous les jours. Ça, c'est aussi d'après la postface de la Maroussia de 91, éditée chez France Loisir. Maroussia fut publiée en 81 en espagnol et je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est la première édition étrangère connue, donc 3 ans seulement après la publication de Maroussia dans le livre. Donc, 81, elle a été publiée en tchèque. Je n'ai pas la version tchèque, j'ai en revanche la version italienne et la version anglaise, donc qui vient des États-Unis, qui date de 1890. Et donc, dans la version américaine, le livre ne s'appelle, enfin, s'appelle Maroussia toujours, mais Maroussia est Maid of Ukraine, la fiancée. Le livre a été édité également au Portugal. Maroussia a connu 8 éditions en Russie. La première édition ukrainienne en traduction de Domanets qui est parue à Lviv en 1904. Et d'ailleurs, l'illustration que j'avais choisie pour la dernière édition française est une illustration ukrainienne. Donc c'est comme ça qu'était illustrée la couverture de Maroussia dans le livre paru en Ukraine. Donc ce dessin est de la plume d'un très grand peintre ukrainien. En 1871, les exilés ukrainiens en Amérique du Nord offrent à Stahl un hommage inattendu en publiant pour le 100e anniversaire de l'apparition du livre, donc 1971, 100e anniversaire de l'apparition de Maroussia en Russie. Et ils publient donc en Amérique Maroussia de Marco Ovchok, mais disent-ils d'après l'édition française 1878. En réalité, c'est apparemment donc le texte, quand on compare, on voit que c'est le texte Rouge et Or de 1955. Donc en prenant le texte de Hetzel, il l'édite sous le nom de Marco Ovchok. Donc c'est l'arroseur arrosé. Donc depuis 1991, le livre a déjà connu plusieurs publications en Ukraine et fait partie de toutes les anthologies de Marco Ovchok. Qui est donc l'auteur de Maroussa? Pierre Jouletzel, caché sous le pseudonyme de P.J. Stahl, a-t-il mérité le rôle qu'il a toujours réclamé, celui du père adoptif de Maroussa, au point de faire oublier, on peut toujours se demander dans quelle mesure c'était volontaire, son auteur, Marco Rocco? Il est indéniable que le texte de Marco Rocco que vous allez découvrir est souvent nébuleux, avec des longueurs inutiles, avec des allusions historiques inaccessibles à un lecteur non averti. L'intervention d'Etzel lui rend une ossature et davantage de cohérence, une belle langue française aussi. N'oublions pas que le texte auto-traduction de Marco Rocco, qui n'est pas véritablement une traduction, n'était qu'un premier jet destiné à être retravaillé, que Etzel lui-même a rédigé 3 voire 4 versions pour Maroussa. La relative inconsistance du premier texte n'est-elle pas normale, comme le sont la logique et la perfection du texte final? Sans doute aussi qu'en tant qu'éditeur, Etzel a veillé à la bonne promotion du livre. Il est fort probable que sans son intervention, le livre de Marco Rocco aurait connu le sort de ses autres écrits en France, et aurait sombré dans l'oubli, le sujet étant trop étroit, traité de manière peu claire, sur une toile de fond inconnue des Français. On doit à Etzel avant tout l'adaptation du livre au lecteur français qui a gardé de l'exotisme du pays lointain où se déroule l'action, juste ce qu'il faut pour capter la curiosité. Ce qui a sans doute joué un rôle plus déterminant dans l'adhésion du lecteur français, c'est le lien affiché et souligné à l'Alsace et à Jeanne d'Arc, dans cette œuvre dédiée au devoir à l'égard de la patrie, le sacrifice en son nom et la gloire impérissable qui attend quiconque ayant donné sa vie au nom de l'idéal de liberté de son peuple. Depuis la perte de l'Alsace et de la Lorraine, la première moitié du siècle dernier, également époque du zénith du culte de Jeanne d'Arc, offrait un terrain suffisamment propice à la glorification des sentiments patriotiques pour assurer au livre de nombreux admirateurs. La clé se trouve probablement dans cet article élogieux du temps où le critique a observé qu'un personnage comme Maroussa est, je cite, un bonheur dans la carrière d'un écrivain. La tentation de ne pas partager ce bonheur était peut-être plus forte. D'ailleurs, Etzel en a presque fait l'aveu. Maroussa est mon enfant d'adoption. J'ai adopté cette petite fille. Je n'avais pas plutôt entrevu sa figure dans la légende où elle m'est apparue pour la première fois que j'ai regretté de ne pas être son vrai père. Le jour où elle a mis le pied en France, elle est devenue mienne. À aucun de mes enfants, je ne donnais plus de soins, plus de tendresse, désirais plus de succès. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais voulu être et ce que j'aurais voulu faire pour elle. Le plus grand des poètes, le plus grand des peintres n'a pas suffi à me la rendre, à me la dire, à me la peindre telle que je la sens et je la comprends, telle que je la rêve. S'agirait-il d'une faiblesse compréhensible, le nom de Marco Rocco n'aurait pas dû disparaître et Etzel, à notre avis, aurait non seulement pu, mais dû assurer sa présence, fût-il le plus habile, le plus ingénieux des adaptateurs. En préface à l'édition de décembre 1878, Pierre-Jules Etzel écrivait « Si nous étions plus curieux de bibliophilie, si la comparaison des textes et des sources avait son intérêt pour une époque affairée comme la nôtre, je céderais à l'envie de publier la traduction de Malamaroussien russe, telle que l'auteur, qui ne possède qu'imparfaitement notre langue, l'avait obligeamment ébauchée pour mon usage, et d'après laquelle j'ai écrit le livre qui vient d'être accueilli avec faveur. Il ne serait peut-être pas indifférent à nous de voir combien les conditions de vie d'un livre peuvent différer de pays à pays. » Voici donc les deux textes réunis, l'original de l'auteur et l'adaptation de l'éditeur. Présence ukrainienne dans la collection de l'Armatan dans laquelle est paru Maroussa espère que notre époque, autrement plus affairée que celle d'Etzel, aura la curiosité de connaître et de redécouvrir Maroussa